Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce 132e numéro de Mélomanie, l'émission qui ne connaît pas le confinement mais qui connaît la musique. Et concernant la musique vivante, la musique en public devant un public, il semblerait que les affaires puissent reprendre après le 15 décembre. C'est en tout cas ce que nous annonce l'Orchestre National du Capitole qui devrait retrouver ses fidèles à la Halograin lors des concerts des 18 et 19 décembre avec un programme de musique de film dirigé par Tougan Sokiev. Croisons les doigts pour que tout se passe bien d'ici là. En attendant, je suis très heureux de retrouver aujourd'hui le fondateur et directeur artistique de l'ensemble Baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord, l'ami Michel Brun, avec qui nous allons vous proposer le cinquième volet de notre série dédiée à Jean-Sébastien Bach. Et oui, mine de rien, déjà quatre émissions consacrées à l'œuvre du génial compositeur allemand. Voici donc la cinquième, et sachez que ce ne sera pas la dernière, une sixième vous attend la semaine prochaine pour clôturer le cycle. Certains l'auront remarqué, nous n'avons pas encore abordé les messes composées par celui qu'on appelle aussi le cinquième évangéliste. Eh bien nous allons réparer maintenant cet oubli qui n'en était pas un d'ailleurs. Nous voici de nouveau repartis trois siècles en arrière, en ce temps béni où vivait et composait un certain Jean-Sébastien Bach.
Mélomanie. Retour arrière.
Alors j'ai parlé des messes, mais en fait on ne va pas commencer par là Michel, puisque nous avons omis aussi jusqu'alors une autre pièce religieuse majeure de Bach, son très célèbre Magnificat, qui porte le numéro BWV 243 au catalogue, une œuvre qui a d'ailleurs des points communs avec les messes qu'il a composées, entre autres avec la messe en si mineur. Nous y viendrons plus tard dans cette émission. Ce Magnificat a été composé entre 1728 et 1731 pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie. Il est écrit pour cinq voix et son texte est en latin. Deux particularités rares chez Bach qu'on retrouve toutefois dans la messe en si mineur.
Voilà, absolument, ça fait partie de ce petit corpus d'œuvres. Alors, en ce qui concerne donc les cinq voix du chœur, c'est effectivement une formation assez rare. On peut dire que la majorité des œuvres chorales, la très grande majorité des œuvres chorales, pas seulement de Bach, hein, dans la tradition jusqu'à y compris Brahms par exemple avec son Requiem, c'est un chœur à quatre voix, donc deux voix aiguës, les sopranos et les altos, et deux voix d'hommes, les ténors et les basses. Et là, Bach, dans les deux œuvres, a donc démultiplié son chœur en divisant les sopranos en deux. Voilà, il y a donc des sopranos 1 et des sopranos 2, et évidemment ça n'est pas un hasard, les deux œuvres d'ailleurs ont d'autres points communs, elles sont pour la même formation orchestrale, qui est le plus grand orchestre possible, imaginable à l'époque de Bach, puisqu'il regroupe donc évidemment les cornes, mais deux flûtes, deux hautbois, le basson et trois trompettes et timbales. Voilà, les deux œuvres donc sont des œuvres très festives sur le plan de la formation instrumentale et vocale. Et enfin, troisième point commun, effectivement, le fait qu'elles soient en latin. Alors, ça peut en surprendre peut-être certains parce que, effectivement, avec la réforme et Luther, on sait qu'il y avait une volonté, disons, que la liturgie se rapproche davantage du peuple. Et donc, effectivement, c'est pour cette raison que toutes les cantates de Bach, les 300 cantates qu'il a composées, sont en langue allemande pour que chacun puisse participer vraiment à ce qui se dit. Mais Luther n'était absolument pas opposé à l'utilisation du latin dans le cadre de la liturgie ou des œuvres religieuses. C'était simplement réservé, on va dire, plutôt à des œuvres d'apparat, à des œuvres particulièrement pour des occasions particulières. Et aucun doute que ces deux œuvres-là en sont.
Alors, le Magnificat, il y a un texte évidemment derrière, parce qu'il y en a eu beaucoup de Magnificat et pas eu que celui de Bach. Bon, je vais rappeler tout de même que c'est un cantique chanté par la Vierge Marie après l'Annonciation, lors de la visite qu'elle rend à sa cousine Élisabeth, qui était plus âgée qu'elle, et enceinte également. Et cet épisode est appelé couramment la Visitation, donc comme je le rappelais il y a quelques instants. On l'appelle aussi Cantique de Marie, Cantique de la Vierge, tiré de l'Évangile de Saint-Luc. Beaucoup de Magnificat, comme je le disais. J'ai pris quelques noms quand même, pour donner un peu une idée. Il y en a eu un de Palestrina, un de Roland de Lassus, un de Schütz, un de Buxtehude, un de Charpentier, alors une de nos grandes merveilles dans la musique française, un de Pachelbel, un de Vivaldi, un de Scarlatti, Mendelssohn aussi et Schubert ont composé un Magnificat, je l'ignorais totalement.
Je l'ignorais également.
Et puis plus près de nous, Arvo Pärt et donc Bach. Est-ce que c'est une œuvre, dans l'œuvre générale de Bach, une pièce à laquelle vous êtes attaché ? Ou finalement peut-être sans plus par rapport à d'autres.
Alors, je crois que ça m'est déjà arrivé dans cette émission, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non, très honnêtement, sur le plan strictement, c'est pas seulement musical, mais du déroulement de l'œuvre, peut-être. Peut-être le fait qu'elle est composée d'un grand nombre de numéros, qui sont donc très courts, puisque le Magnificat de Bach est une œuvre courte, hein, qui dure à peine plus de 30 minutes. Donc, peut-être est-ce ça, le fait qu'il n'a pas vraiment le temps de développer, je ne sais pas. Le matériau musical est magnifique, pourtant, mais il me manque quelque chose. Mais par contre, je vous avoue que je l'apprécie beaucoup, et peut-être particulièrement dans le cadre d'une émission comme celle qui nous réunit aujourd'hui, parce que c'est une œuvre dans laquelle la rhétorique musicale, c'est-à-dire, pour ne pas employer un mot trop snob, le fait d'illustrer le texte, justement, ce fameux cantique de Marie, en musique, de l'illustrer avec la musique, grâce à la musique, de le renforcer, on pourrait dire, par la musique. Alors là, les exemples sont absolument extraordinaires, et c'est surtout sur cet aspect-là que j'aimerais insister dans notre présentation du Magnificat.
Alors, à la suite de cette présentation, on va illustrer ce que vous venez de dire avec un premier extrait du Magnificat de Bach. Et comment ne pas commencer par le début, l'archi-célèbre Magnificat Anima Mea Dominum, que nous allons entendre dans une version de la Netherlands Bach Society. Magnificat Anima Mea Dominum, le début et le premier chœur du Magnificat de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'ensemble de la Netherlands Bach Society, une formation qui est un peu votre chouchou, Michel. On va en profiter pour en parler justement de l'interprétation de ce chœur parmi les plus célèbres du compositeur allemand. En quoi celle que nous venons d'entendre vous plaît-elle particulièrement? Parce que tout le monde le connaît, ce chœur.
Absolument.
Il y a une multitude de versions. Parfois plus ou moins approximative.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir, nous qui à l'ensemble l'avons très souvent donné, ce Magnificat, évidemment, c'est un cheval de bataille, on va dire, de tous les ensembles baroques, surtout ceux qui se destinent à la musique de Bach en particulier. Le début de ce chœur, donc l'entrée du chœur, est absolument redoutable. Ça n'a peut-être pas l'air quand on l'entend, mais c'est extrêmement difficile de réussir à placer les deux voix qui rentrent. Hein. Ce sont donc les deux voix aiguës du chœur, et c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et donc, je trouve que la performance qu'il réalise, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on trouve par cet ensemble sur Internet et des enregistrements en concert non retouchés, et là je trouve ça absolument remarquable. Et d'autre part, ben voilà, je trouve qu'il trouve l'équilibre parfait entre un discours clair, mais quand même la figuration de cette joie absolument, c'est une jubilation incroyable, c'est une jubilation, je pense.
C'est ça qu'il faut arriver à transmettre, voilà,
à l'auditoire, avec une partie de trompette d'une difficulté absolument inouïe,
aussi,
ça s'entend. Il faut savoir que donc Jean-Sébastien Bach avait la chance d'avoir son trompettiste pendant toute une partie de sa vie, qui était un instrumentiste, semble-t-il, hors pair, mais que Jean-Sébastien Bach a contribué quand même à tuer, puisqu'il est mort quelques minutes après avoir interprété du Bach. Voilà. Est-ce à cause de la musique de Bach qui était si exigeante pour lui? En tout cas, il semble que sans lui, Bach n'aurait jamais écrit ses parties de trompette aussi spectaculairement virtuoses. Et donc cette jubilation qu'on sent dans cette version, j'adore.
Nous continuons maintenant avec un deuxième extrait du Magnificat. Il s'agit d'un enchaînement entre la troisième partie de l'œuvre et la quatrième, Omnes Generationes, et c'est une version du Monteverdi Choir, dirigée par son fondateur John Eliot Gardiner.
Thank you.
Omnes Generationes, deuxième extrait du Magnificat de Bach, interprété cette fois-ci par le Monteverdi Choir sous la direction de John Eliot Gardiner. Vous avez tenu à ce que nous écoutions ce passage précis, à cheval sur la troisième et la quatrième partie de l'œuvre, dans cette version donc dirigée par Gardiner. Pourquoi ces deux choix ?
Alors, c'est presque indispensable, puisque vous l'avez entendu, les deux morceaux s'enchaînent en réalité, et ils s'enchaînent musicalement pour une bonne raison, c'est que la phrase qui est dite par Marie, donc puisque hein, je vous rappelle que tout le texte ici est un texte à la première personne, c'est Marie qui parle, et donc le texte est à cheval, lui aussi, sur les deux morceaux. Et c'est absolument extraordinaire, parce que la première pièce, donc on l'a vu, c'est l'expression de cette joie à glorifier Dieu, et là, Marie dit « Je serai déclarée bienheureuse » par toutes les générations. Omnes generationes. Donc, c'est la même phrase. Et simplement, la première partie, je serai déclarée bienheureuse, elle le chante accompagnée magnifiquement du hautbois dans l'aria. Et la fin de la phrase est enchaînée de manière complètement surprenante par le chœur. Pourquoi est-ce que Jean-Sébastien Bach fait ça ? Bien, c'est une figuration extraordinaire de toutes ces générations. Figurez-vous, on appelle ça un fugato. Figurez-vous qu'il y a donc, avec un chœur à cinq voix, il y a deux entrées dans chaque mesure de ce numéro, deux entrées dans chaque mesure qui dit omnes generationes, toutes les générations. C'est une manière extraordinaire, je trouve, en rhétorique, voilà, j'en parlais tout à l'heure,
d'illustrer
le texte. Voilà, toutes ces générations, on a cette espèce d'accumulation d'entrées, toutes les générations, et que c'est comme s'il voulait toutes les citer depuis la nuit des temps et pour la suite, voilà, absolument. Et deux petits détails qui sont difficiles à entendre, mais qui figurent dans la partition, et donc c'est un petit secret que je vous révèle, à deux occasions, Bach fait rentrer les voix en montant d'un degré de la gamme à chaque fois, c'est-à-dire la première voix va rentrer sur un sol, la deuxième sur un la, la troisième sur un si, sur un do, etc., etc. Et il va parcourir comme ça deux fois de suite une gamme complète, donc 8 entrées sur le omnes generationes en montant à chaque fois d'un cran. Bon, c'est une performance d'écriture et en même temps une illustration extraordinaire du texte.
Et sur l'interprétation qu'on vient d'entendre, et alors, la direction de Gardiner.
Voilà, j'adore, absolument, là aussi. Je trouve que c'est une version, je l'ai retenue aussi beaucoup, parce que justement, on entendait très bien toutes ces entrées de chœur. C'est une version très claire sur ce qu'on appelle le contrepoint, et donc j'apprécie beaucoup cette clarté.
Voici un troisième extrait du Magnificat, le Deposuit, un aria pour ténor qui constitue la huitième partie de l'œuvre. Nous l'écoutons dans une version de l'ensemble Collegium 1704. Deposuit, aria pour ténor du Magnificat dans une version de l'ensemble Collegium 1704 dirigé par Václav Lux. Alors pourquoi était-il important de faire entendre cet air, Michel ?
Alors ben voilà, parce que là on a une illustration, on va dire, presque naïve, au sens naïf, évidemment Bach était tout sauf naïf, hein, mais au sens où on pourrait le dire d'une imagerie, d'un vitrail par exemple, qui va illustrer aussi un texte sacré de manière un petit peu naïve. Donc Deposuit, que nous dit ce texte, il a fait descendre les grands de leur trône et élever les humbles. Et on entend, ben voilà, tout simplement une formule descendante à l'orchestre, puis lorsqu'elle rentre à la voix de ténor. Donc, lorsque sur ce passage musical, il y a le Deposuit, la descente des nantis, et puis une phrase ascendante, lorsque, au contraire, on parle d'élever les pauvres. Voilà, donc, didin, tagadagadagada, on descend, et on descend non sans accident. Tadam, je vous le refais. avec cet intervalle incroyablement violent, donc la descente n'a pas l'air très rigolote. Et par contre, la montée,
c'est beaucoup plus en douceur,
voilà. Et d'ailleurs, je regrette, mais je n'ai pas trouvé d'interprétation qui me satisfasse totalement sur ce plan-là. Le chanteur le fait magnifiquement, il change sa voix entre la descente qui est très, comment dirais-je, engagée, assez violente, et par contre, beaucoup plus douce la montée, parce qu'évidemment, ce sont les bienheureux. Et l'orchestre, je trouve, n'adoucit pas assez son détaché. J'aurais souhaité que, pour la montée, le détaché des violons soit un petit peu plus doux lui-même.
Ah, les parties prises d'interprétation. Hein.
Absolument.
C'est pas simple. Dernier extrait du Magnificat de Jean-Sébastien Bach, et ce sera l'air qui suit le Deposuit que nous venons d'écouter. Encore un aria, mais pour alto ou contre-ténor celui-ci, Esorientes, interprété par le Ricercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot. Esorientes, la magnifique fin de la 9e partie du non moins magnifique Magnificat, comme il porte bien son nom. Ici, c'était chanté par le contre-ténor Carlos Mena, accompagné par le Ricercar Consort, sous la direction de Philippe Pierlot, son fondateur. Vous avez souhaité que l'on termine notre présentation du Magnificat par cet air, plutôt que par le chœur final.
Oui, le chœur final, là aussi, magnifique idée d'illustration de la part de Jean-Sébastien Bach, et d'ailleurs très moderne, puisque le texte dit que ce sera un perpétuel recommencement à la fin comme au début, disons, et Bach décide de reprendre son premier chœur et de le mettre à la fin, un petit peu modifié, mais c'est cette idée extraordinaire qui donc, encore une fois, n'est pas due au hasard ou manque d'inspiration. Tiens, aujourd'hui, je sais pas trop quoi mettre, je vais reprendre mon chœur du début. Non, pas du tout. Il a une idée derrière la tête pour illustrer donc cette idée de recommencement. Et je trouvais que c'était moins intéressant de faire entendre du coup, puisqu'on a déjà entendu et presque intégralement, pas intégralement, mais en bonne partie, le chœur du début. Voilà. Alors, j'aurais pu choisir tous les numéros du Magnificat pour illustrer mon propos, c'est-à-dire donc la richesse de cette rhétorique musicale. J'ai choisi celui-là qui me paraît particulièrement extraordinaire. Voyons voir. Je n'ai jamais entendu ça dans aucun morceau de musique au monde. On a donc là deux flûtes qui jouent, accompagnées de la basse continue, qui est donc jouée par l'orgue, le violoncelle et la contrebasse, et un chanteur. Et la dernière note de ce morceau, vous l'avez sans doute remarqué, c'est une seule note, en pids, c'est-à-dire poum, joué par un seul instrument, le plus grave de l'orchestre, la contrebasse. On est complètement dépouillé de musique. Or, que nous dit le texte? Le texte nous dit « Il a comblé de bien ce qui était affamé et il a renvoyé dépouillé ce qui était riche. » Et quelle extraordinaire illustration! Il nous a donc comblé de biens musicaux avec cette magnifique mélodie aux deux flûtes et cette magnifique mélodie chantée par le haut de contre. Et il nous montre aussi ce que c'est que le dépouillement, juste avec ce petit détail extraordinaire que fait particulièrement bien, je trouve, cet ensemble, ce pizz de contrebasse finale. Voilà, c'est extraordinaire. Pour moi, là, c'est d'une imagination, d'une qualité d'imagination absolument extraordinaire, d'où ma tendresse pour cette œuvre.
Tout un monde dans une note.
Tout un monde dans une note, absolument. Tu as parfaitement résumé la situation.
Alors, on en termine là-dessus pour le Magnificat. Avant de passer à un des chefs-d'œuvre absolus de Jean-Sébastien Bach, sa messe en si mineur, petit détour par ses messes brèves, qu'on appelle aussi messes luthériennes. Il en a composé 4 entre 1737 et 1748, des pièces de la grande maturité, donc qui portent les numéros allant de BWV 233 pour la première à 236 pour la quatrième. Selon l'usage, elles ne sont constituées que d'un Kyrie et d'un Gloria. Et leur particularité, c'est que Bach y reprend des arias et des chœurs de certaines de ses cantates en les adaptant à la langue latine ou pas, là?
Ah oui, à la langue latine. Les messes dites brèves, j'y reviendrai dans un instant, sont en latin également.
Moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est souvent bon ton parmi les mélomanes, les musicologues, de les prendre un peu pour quantité négligeable, ces messes brèves de Bach. Est-ce que c'est parce qu'on ne les entend pas très souvent en concert, ou est-ce qu'on ne les entend pas très souvent en concert parce que ce sont des œuvres mineures dans l'œuvre gigantesque de Jean-Sébastien Bach?
Alors, j'avoue avoir une tendresse très particulière pour ces œuvres que nous avons d'ailleurs toutes interprétées avec l'ensemble baroque de Toulouse, et en particulier pour celle en sol mineur, dont on va entendre un extrait, que je trouve d'une beauté musicale absolument confondante. Mais effectivement, elle souffre d'un défaut qui est que donc Bach a emprunté pour une grande part le matériau musical à des cantates préexistantes, et évidemment, comme ça n'était pas le même texte, d'abord il était en allemand dans les cantates, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis ensuite, c'est pas le même texte, hein, le texte de la messe n'était pas le texte de la cantate, et donc il a adapté le texte à la musique, enfin il a adapté la musique au texte, enfin voilà, il y a quelque chose qui est moins intimement lié entre texte et musique que dans d'autres œuvres, que comme celle qu'on vient d'entendre, le Magnificat, la musique a été vraiment composée pour ce texte-là et ça s'entend particulièrement. Mais par contre, la beauté musicale, vraiment, elle est là dans ces œuvres. Et juste une toute petite chose pour dire qu'on les appelle messes brèves, mais c'est une erreur. Ce sont les messes normales de la liturgie luthérienne. En réalité. On les appelle brèves à cause de ce qui va suivre tout à l'heure.
Oui. Évidemment. Alors, pour illustrer cette partie de l'émission consacrée aux messes luthériennes de Bach, nous allons écouter le Kyrie de la messe en sol mineur BWV 235, et c'est une version du Collegium Vocal, dirigée bien sûr par Philippe Hervaig. Mais c'est pourtant vrai que c'est beau ce Kyrie de la messe en sol mineur BWV 235, interprété par le Collegium Vocal sous la direction de Philippe Hervaig. Un petit commentaire sur ce que nous venons d'entendre, Michel.
Ben voilà, moi je suis confondu devant la beauté de cette musique. Je ne comprends pas qu'effectivement, pour une raison réelle, hein, mais on la méprise, je pense que ces quatre messes brèves, enfin ces quatre messes luthériennes devraient retrouver toute la place qu'elles méritent sur le plan musical. On est partagé entre l'envie de danser, en même temps la sensualité incroyable qui est dans cette musique. Moi je trouve ça absolument merveilleux.
Et pourtant, ce sont des messes.
Voilà, ce sont des messes. Il y a toutes ces choses-là. Puis alors, quelle qualité d'écriture pour le chœur et pour l'orchestre, absolument extraordinaire.
Non, mais ce qu'on peut se dire, c'est que bon, bah, ces messes, si c'était des œuvres d'un autre compositeur, elles seraient considérées sans doute comme majeures dans son œuvre. Et comme il s'agit de Jean-Sébastien Bach, on les considère comme mineures.
Bon, voilà, probablement. Voilà. Probablement quelque chose comme ça.
Voici la troisième et dernière partie de cette émission. Elle va être longue. On pourrait croire que c'est le dessert, mais il s'agit plutôt du plat de résistance, puisque nous allons maintenant évoquer la messe en si mineur, l'œuvre ultime, remaniée, élargie. On va en parler. On considère qu'avec la Passion, selon saint Matthieu, c'est sans doute le super chef-d'œuvre de Bach. Est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi?
Ah oui, complètement. C'est une œuvre pour moi absolument inouïe. Vous connaissez ma tendresse pour la Passion selon saint Matthieu. J'ai la même, mais d'une manière différente, j'ai envie de dire, pour la messe en si que je mets au même niveau. C'est une œuvre d'une profondeur absolument extraordinaire, bouleversante à beaucoup de points, sur un plan musical par moment, et je pense qu'on va l'entendre dans les exemples, mais aussi bouleversante parce que on voit bien que c'est le testament d'un homme. Alors évidemment, c'est facile de dire, nous qui savons qu'il allait mourir,
oui,
juste après avoir achevé cette œuvre, et sans jamais d'ailleurs l'avoir entendue dans sa version définitive, on peut dire que c'est facile de dire que c'est testamentaire. Mais il n'y a aucun doute quand même. D'abord, il savait qu'il était proche de la fin. Il faut savoir que Bach s'est beaucoup affaibli pendant les derniers mois. Il est devenu aveugle. Et d'ailleurs, c'est probablement le fait d'être devenu aveugle qui a fait qu'il n'a pas pu terminer certaines de ses œuvres. Et donc, on le sent aussi dans cette volonté de faire comme une sorte de résumé de toute son écriture, de l'écriture de toute une vie. Cette œuvre d'une heure et demie, à peu près, deux heures, et une sorte d'adieu avec tous les modes d'écriture qu'il a utilisés pendant sa vie.
Ça aurait été une manière pour lui de dire aux hommes, eh bien voilà tout ce que je vous laisse,
voilà,
tout est là.
Absolument. Et en particulier sur quelque chose de très poignant, probablement pour lui, qui est cet art du contrepoint, donc dans lequel il a excellé. On l'a dit tout à l'heure quand on a présenté le Magnificat, mais à nouveau un chœur à cinq voix avec deux pupitres de soprano. Donc une écriture de contrepoint à cinq voix, mais parfois il va jusqu'à diviser son chœur en deux, donc on a parfois deux chœurs à quatre voix, à huit voix, et il écrit du contrepoint à huit voix, plus parfois certaines voix à l'orchestre. C'est dire la science de cet homme, et il sait qu'après lui, lorsqu'il va disparaître, cet art du contrepoint va disparaître en grande partie avec lui, parce qu'il sent bien que la mode est en train de changer. On apprécie de plus en plus l'opéra italien, y compris en Allemagne, et y compris lui d'ailleurs, hein, il ne le refusait pas, mais simplement il se rend compte que probablement le contrepoint, cet art dont il a été l'héritier et qu'il a mené à son sommet absolu, va disparaître après sa mort. Et donc il y a quelque chose de bouleversant dans cet adieu à un mode d'écriture.
D'une certaine manière, on peut dire qu'il a repoussé à cette occasion les limites de l'art du contrepoint et les limites de son propre génie, finalement.
Absolument, absolument. Et ça, c'est sidérant. On a du contrepoint dans tous les styles, le style le plus rigoureux, le style le plus archaïque, qui revient dans certaines pièces à un contrepoint qui était complètement passé de mode, qui était le contrepoint qu'on écrivait plutôt à l'époque de Schütz, par exemple, quelques décennies, largement décennies avant lui. Et puis, en même temps, à d'autres moments, il laisse tomber le contrepoint et on a un chœur juste bouleversant. Le Crucifixus, par exemple, est absolument bouleversant, tout simplement, avec des moyens musicaux, j'ai envie de dire, communs à tous, de tous les jours. Quoi. Voilà. C'est une œuvre somme, c'est une œuvre monde,
et c'est une œuvre testament.
Et c'est une œuvre testament, donc vraiment, oui, une grosse, grosse, grosse tendresse pour cette œuvre, oui.
Un mot sur la structure de l'œuvre en question. 4 parties, 27 morceaux en tout. Alors les 4 parties, vous pouvez peut-être nous les décrire parce que ça s'est construit en plusieurs fois tout ça.
Voilà, tout à fait. C'est pas une œuvre d'un seul jet. Il y a en gros 35 ans de composition, même si lorsqu'il a commencé, il ne voyait pas évidemment ce que ça deviendrait à la fin. Hein. Il n'a pas dit un jour je commence la messe en si, et puis 35 ans plus tard, il l'a achevé. Non, mais pour l'achever, il a repris des pièces qu'il avait composées 35 ans auparavant. Sur la vie d'un homme de l'époque, 65 ans, c'est quand même
oui,
la
c'est
plus
vrai,
grande partie de sa carrière.
Oui, c'est vrai, parce que le Sanctus est composé le jour de Noël 1724, et ça se termine en 1749, quoi, en gros, pas un an avant la mort de Bach.
Voilà, tout à fait. Et alors donc, cette œuvre, elle a posé beaucoup d'énigmes aux historiens et aux musicologues, parce que, justement, ça n'est pas une messe brève,
et oui.
C'est pour ça qu'on appelle les autres.
Luthérienne.
Mais ça n'est pas une messe luthérienne, voilà. Elle est calquée sur le modèle catholique, ce qui a engendré un grand nombre d'hypothèses toutes plus uluberlues les unes que les autres, dont une, par exemple, qui aurait été qu'à la fin de sa vie, secrètement, Bach se soit converti au catholicisme et même rejoint les Rose-Croix, ce qui est évidemment une absurdité totale, mais ça a beaucoup interloqué effectivement le fait qu'il la calque sur un modèle qui n'est pas le modèle de sa religion à lui, la religion luthérienne, sur lequel sont calquées les messes brèves. Donc, alors il y a des explications.
Il y a une autre hypothèse.
Voilà.
La cour de Dresde était catholique.
Absolument.
Et qu'il aurait été intéressé par un certain
poste.
Mais
absolument. Peut-être. Je pense que c'est une explication beaucoup plus quotidienne.
On pourrait dire que c'est un peu alimentaire.
Voilà, tout à fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que cette œuvre absolument géniale qui défie l'imagination
hautement spirituelle
et hautement spirituelle a peut-être été rassemblé effectivement sous cette forme de la messe catholique pour effectivement séduire donc un prince d'obédience catholique. Et évidemment, comment le séduire mieux qu'en lui montrant qu'on est capable aussi d'écrire une œuvre dans ce style.
Donc, les 4 parties. La première,
le Kyrie.
La deuxième,
le Gloria.
La troisième,
le Credo.
Et enfin, on termine,
l'Agnus Dei. Chacune de ces parties comportant évidemment plusieurs morceaux. Hein, par exemple, je ne vais pas tout détailler, ce serait trop long, mais le Kyrie du début, traditionnellement, c'est 3 morceaux. Kyrie, Christe, Eleison, et enfin, à nouveau, Kyrie, Eleison, c'est-à-dire Prends pitié. Et donc, en tout, 27 numéros. Si je sais compter, 27, c'est 3 au cube, c'est-à-dire 3 avec
3 fois 3.
Voilà, là aussi, beaucoup d'élucubrations sur les nombres. On sait que Bach était fasciné par les nombres. Et là, très certainement, ça n'est pas un hasard, ce 3x3. Cette œuvre, alors là, ce serait beaucoup trop long de rentrer dans les détails, mais est située, effectivement, sous le signe de la Trinité. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se rapprochent du chiffre 3.
Puisque vous en parlez, voici un premier extrait de la messe en si, le Kyrie du début, pour lequel nous retrouvons le Monteverdi Choir et John Eliot Gardiner. Le magnifique premier Kyrie de la messe en si mineur, interprété par le Monteverdi Choir et John Eliot Gardiner à sa direction. Alors d'emblée, Bach nous place dans une ambiance un peu particulière, comme une espèce de marche, de procession qui nous amène vers où ?
Voilà, ah ben justement, qui va nous guider pendant cette plus d'une heure et demie de musique. Hein. Après cette arche extraordinaire du début, ce chœur qu'on entend dès l'entrée, à cinq voix, les cinq voix et tout l'orchestre hein, qui l'accompagne, pendant ces brèves mesures du début, comme effectivement si on passait sous une arche qui nous introduit dans cette œuvre immense, à tous les points de vue. Et puis, on a le sentiment d'une sorte de procession hein, qui commence. Et ce premier chœur est très long, il dure 8 minutes. Hein. Alors voilà, on s'excuse auprès des auditeurs, on l'a coupé tôt. C'est-à-dire que 8 minutes, quand on l'entend vraiment magnifiquement interprété comme là, ça paraît pas si long, hein, bien sûr. Et donc, on a l'impression de commencer cette procession qui va nous amener tout au long, qui va nous guider tout au long de cette messe. Déjà, une fois passé ce portique introductif, on entend tout de suite, avec le thème qui rentre au hautbois, le hautbois joue un rôle très important dans cette le hautbois solo ici, comme si c'était un concerto qui fait tam, 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 tin, tin, tam, pim, pim. Puis le deuxième hautbois qui rentre sur le même motif, sur un autre intervalle, un peu plus loin, on a coupé avant le basson et le violoncelle qui rentrent là-dessus, et ça va être le sujet, on appelle ça le sujet, c'est-à-dire le thème de la première fugue à cinq voix qui ouvre cette œuvre de contrepoint qu'est la messe en si mineur.
Il y a un deuxième Kyrie dans la messe en si de Bach, nous allons tout de suite l'écouter. Là, il s'agit d'une version dirigée par Jordi Savall. Mais avant sa diffusion, vous vouliez proposer un petit jeu à nos auditeurs.
Voilà, alors j'ai honte en même temps de proposer un jeu à propos de la messe en si, parce que c'est pas une œuvre.
Oui, c'est pas fait pour jouer, a priori.
Mais juste pour se dire, donc j'ai beaucoup parlé, non seulement aujourd'hui, mais à d'autres occasions, en particulier lorsqu'on avait parlé de l'art de la fugue et du clavier bien tempéré, j'ai beaucoup parlé de fugue. Alors donc, la fugue, c'est l'art de combiner la même mélodie qui rentre successivement à plusieurs voix. Et une fois qu'elle est rentrée dans une voix, la voix continue de jouer ou de chanter une partie très mélodique et vient se superposer une deuxième fois cette mélodie. Alors, nous avons minuté très précisément le deuxième extrait et je vais vous demander de compter le nombre d'entrées que vous recensez, le nombre d'entrées de fugue que vous recensez. Et si vous y arrivez, vous êtes bon pour suivre les redoutables cours de contrepoint du conservatoire.
Soyez donc attentifs et écoutez bien ce deuxième Kyrie de la messe en si.
Thank you.
C'était le deuxième Kyrie de la messe en si dans une version dirigée par Jordi Savall. Alors Michel, pour ceux qui ont joué au petit jeu que vous leur avez proposé, combien y avait-il d'entrées de fugue dans cet extrait ?
Il y avait donc, j'espère que c'est votre compte à vous aussi, 6 entrées de fugue. Voilà. Pour un chœur, alors cette fois-ci à 4 voix. Parce qu'il faut savoir que tout au long de la messe en si, donc Bach change sa disposition chorale. La disposition de base, c'est 5 voix. Et c'est celle qui, évidemment, est la plus fréquente dans l'œuvre. Mais selon les numéros, il passe donc à 4 voix, à 6 voix. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, également à 2 chœurs à 4 voix. Donc, si je sais compter, 8 voix. Là, nous avons eu 6 entrées donc, de fugue sur le même motif.
Et oui, on peut jouer avec Jean-Sébastien Bach. Nous poursuivons notre exploration de la longue première partie de la messe en si en écoutant l'avant-dernier des 12 morceaux qui la composent. Voici le Quoniam tu solus sanctus, interprété par l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Quoniam tu solus sanctus, avant-dernier morceau de la première partie de la messe en si interprétée par l'ensemble Pygmalion, dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. Un petit commentaire sur ce que l'on vient d'entendre, Michel. Alors dites donc, là, pour le corniste, l'affaire est rude. Hein.
L'affaire est rude, surtout pour un corniste qui joue du cor naturel, c'est-à-dire cet instrument qui n'a pas de piston et qui donc...
Il n'y a pas droit à l'erreur.
C'est un métier terrible que celui de corniste parce qu'il faut être absolument... dans une forme absolument parfaite sur le plan physique pour jouer de cet instrument. C'est-à-dire que la moindre variation dans la pression des lèvres va faire déclencher... Alors, évidemment, c'est la même chose, on pourrait dire, pour une flûte traversière, sauf que le canard qui en résulte est évidemment beaucoup plus perceptible au corps.
Ah, oui,
ça
oui,
fait
oui,
brusquement
oui.
Une espèce d'énorme couac que tout le monde entend et qui ridiculise le corniste. Et donc, du coup, ça l'atteint psychologiquement et donc il commence à trembler et, en général...
Ça s'enchaîne, ça part en cacahuète.
Et dit. Donc, c'est terrible. Alors là, pour quel instrumentiste Bach a-t-il composé cette partie? Là, qui pouvait jouer cette partie-là à l'époque, c'est absolument incroyable, c'est d'une exigence. Alors cet air est particulièrement intéressant parce qu'on y parle du Christ en majesté et donc pour figurer ce Christ en majesté, outre le corps, Bach a réuni uniquement des instruments graves. C'est-à-dire il y a deux bassons, ce qui est très rare, deux bassons qui jouent ensemble, pas à l'unisson mais avec une partie extrêmement proche, et puis le violoncelle et la contrebasse. Donc le chanteur basse qui se rajoute à tout ça, on est tout dans le spectre grave de l'orchestre et le corps par-dessus qui se détache pour rajouter, hein, par le son du cuivre, à cette majesté du Christ. C'est extraordinaire sur le plan musical et là aussi on a un bel exemple d'illustration musicale.
Et maintenant, un extrait de la deuxième partie de la messe en si, le Credo. Il compte 10 morceaux. Nous allons écouter le 10e et dernier. Le chœur est expecto et c'est de nouveau une version du Monteverdi Choir dirigée par John Eliot Gardiner. Le chœur est ex specto du credo de la messe ancienne interprété par le Monteverdi Choir dirigé par John Eliot Gardiner. Moment très important de la messe ancienne bien sûr, et moment génial. En quoi Bach est-il encore génial dans ce passage précis?
Je ne sais pas par quoi commencer. Là, pour moi, on est dans parmi les plus belles pièces de toute l'histoire de la musique avec ce et ex specto, donc j'attends. J'attends quoi? J'attends la résurrection. Et cette attente, d'écrire, allez-y, en musique, décrivez l'attente. Et cette attente, évidemment, qui n'est pas une attente passive, comme on attendrait dans une salle d'attente chez un médecin, qui est une attente mi-angoissée, pleine d'espoir, pleine de douleur aussi. Et ça, tout ça, Bach le rend avec des moyens musicaux. Et ça, c'est purement génial. Le sentiment que le sol est mouvant sous les pieds, on ne sait plus dans quelle tonalité on est. D'ailleurs, il atteint des tonalités qui n'existaient même pas à l'époque. On se retrouve avec 6 bémols, 5 bémols à la clé. C'est des tonalités totalement inusitées. Cette dissonance que vous avez remarquée à un moment donné entre le pupitre de soprano et le pupitre d'alto, qui dit cette douleur profonde de cette attente. On attend un moment aussi où les sopranos rentrent toutes seules. Il a un orchestre de 30 musiciens. Il a un chœur à 5 voix et il fait rentrer les sopranos toutes seules, et pendant plusieurs secondes, elles restent comme suspendues dans cette attente. Et puis évidemment, après, cette explosion à l'idée de la résurrection. Au moment de la résurrection, c'est musicalement, c'est bouleversant.
Même psychologiquement, je trouve.
Même psychologiquement,
c'est génial.
Absolument, tout à fait. C'est pour moi un des plus beaux passages de toute l'histoire de la musique, oui, très clairement.
Nous en arrivons au dernier extrait que nous allons vous donner à entendre dans cette émission, l'Agnus Dei de la quatrième partie de la messe en si, avant-dernier morceau de l'œuvre. L'Agnus Dei de la quatrième partie de la messe en si, avant-dernier morceau de l'œuvre donc. Vous avez souhaité que l'on termine là-dessus et non sur le chœur final encore une fois. Et vous avez voulu que ce soit avec cette version dirigée par Philippe Hervaig, chanté par Damien Guyon, ce contre-ténor que vous appréciez tout particulièrement.
Oui, voilà, absolument. Je trouve cette version juste magnifique. Il n'y a rien d'autre, pas grand-chose d'autre à dire finalement. Après, dans la composition de cette pièce, à nouveau un nouvel élément. Donc, quand on parlait tout à l'heure de cette synthèse que représentait la messe en si dans l'écriture de Jean-Sébastien Bach tout au long de sa vie, donc on a vu ses chœurs surchargés de contrepoints. Et là, on a le dépouillement total. Les basses qui scandent, on dirait le temps qui passe inexorable. Poum, poum. Boum, comme ça, et dessus une mélodie à l'unisson de tous les violons. Donc il a des flûtes, des hautbois, des trompettes, un cor, des timbales, etc. Et juste une mélodie à l'unisson des violons. Et cette voix de Haute-Comte qui rentre et qui dialogue avec les violons, c'est juste magnifique et vraiment bouleversant, vraiment bouleversant.
Alors vous parlez de ce temps qui passe inexorablement, c'est aussi le temps qui passait pour Bach, qui sentait que la fin était proche. Hein. Il y a quelque chose, on l'a dit testamentaire, mais aussi autobiographique. Qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Puis lui croyait qu'il y avait quelque chose derrière, évidemment. Donc bon, comment pouvait-il le vivre? Sans doute assez sereinement, on peut l'imaginer. Une question pour finir tout de même. Est-ce que vous croyez que Bach pouvait tirer sa révérence après avoir composé un tel monument que la messe en si? Ou est-ce que vous pensez qu'il aurait eu encore d'autres chefs-d'œuvre à offrir à l'humanité si Dieu lui avait prêté vie plus longtemps?
Alors ça, c'est très très difficile à dire. En tout cas, moi, ce que je perçois, c'est un sentiment de complétude. J'ai personnellement pas le même sentiment. Par exemple, évidemment, c'est facile de dire ça puisqu'il est mort beaucoup plus jeune, à la mort de Mozart. On se dit, vraiment, Mozart est mort trop tôt, bien qu'il ait énormément écrit et énormément écrit de chefs-d'œuvre, mais on a le sentiment qu'il a pas donné tout ce qu'il pouvait donner.
On peut dire ça aussi pour Schubert, pour Pergolèse, bien sûr,
des compositeurs qui sont morts jeunes. Mais Beethoven n'est pas mort très vieux, mais on a le sentiment que Beethoven, il y a une complétude là aussi. Comment aller plus loin que les derniers quatuors ou les dernières sonates pour piano? Eh bien, là, j'ai l'impression que on est arrivé quand même d'une certaine manière à l'aboutissement absolu de l'écriture de Bach, et peut-être c'est une belle manière de dire adieu au monde.
Et sans doute le pensait-il aussi lui-même. J'ai tout dit, je peux partir. C'est la fin de la 5e émission de notre cycle Bach. Merci infiniment encore une fois Michel Brun pour le bonheur que vous nous donnez en partageant avec nous votre érudition et votre passion, votre enthousiasme très contagieux pour l'œuvre de ce génie absolu de la musique qui était Jean-Sébastien Bach. Le 6e volet, la semaine prochaine, sera aussi le dernier de cette série. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Même si nous savons tous qu'on n'en a jamais fini avec Bach et sa musique, pour cette ultime émission, nous allons nous pencher sur les suites et les partitas, évidemment lire au programme les fameuses suites pour violoncelle, mais aussi les suites pour orchestre et puis donc les nombreuses partitas. Ni la matière ni les chefs-d'œuvre ne vont manquer pour ce dernier rendez-vous avec le grand compositeur allemand. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre écoute fidèle, je vous souhaite un très bon week-end et une excellente semaine à tous.